Le journal des sciences.
Et pour commencer ce journal, on commence avec donc deux études qui ont été publiées dans la revue Science sur l'homme, ou plutôt la femme de Néandertal, le séquençage réussi du génome d'une néandertalienne qui a vécu il y a 50 000 ans, nous en apprend beaucoup sur elle, sur eux, et donc sur nous, Zoé.
Oui, puisque c'est l'Institut Planck de Leipzig, qui est le pionnier de l'ADN ancien, qui publie ces deux articles. Alors il faut savoir que l'Institut avait déjà réussi en 2014 le séquençage du génome d'une autre femme de Néandertal, dont les restes avaient été découverts en Sibérie, dans les montagnes de l'Altaï, et il a réussi cette fois à séquencer le génome de celui d'une femme dont les restes ont été retrouvés en 1980 dans une grotte en Croatie. Et l'analyse de ce génome nous en apprend beaucoup d'abord sur l'évolution de l'homme de Néandertal lui-même, dont on pense, je le rappelle, qu'il s'est éteint entre il y a 30 000 et 40 000 ans. Et c'est le docteur Kay Prüfer, l'auteur de ces deux études, qui m'a expliqué comment on comprend tout cela un peu mieux.
Pour tenter d'en savoir plus sur l'évolution de Néandertal, nous avons fait une analyse très simple. Nous avons pris le génome que nous venions de séquencer, celui de cet individu retrouvé en Croatie, et nous l'avons comparé au seul autre génome complet de Néandertal que nous avions, celui d'une autre femme Néandertal retrouvée, elle, dans les montagnes de l'Altaï, en Sibérie. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a très peu de différences entre ces deux génomes. Or, grâce à l'analyse moléculaire, nous savons de façon précise quand ces femmes vivaient. On estime que celle de Sibérie vivait il y a 120 000 ans et que celle de Croatie, dont nous venons de séquencer le génome, vivait il y a 50 000 ans. Donc elles ont vécu à 70 000 ans d'écart, l'une en Sibérie, l'autre en Croatie, à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, et en dépit de ces grandes distances dans le temps et dans l'espace, il n'y a que trois différences de paires de bases sur 10 000 entre leurs deux génomes. Et c'est très peu. Pour vous donner un exemple, entre les génomes de ma mère et celui de mon père, il y a probablement au moins sept différences sur 10 000, alors qu'ils vivaient au même endroit et au même moment. Ce que cela nous dit de Néandertal, c'est que c'était certainement une population très réduite. En tout cas, à cette période-là, il y a entre 120 000 et 50 000 ans, ils étaient très peu nombreux.
Alors, contrairement à la néandertalienne retrouvée en Sibérie, dont le génome montrait que ses parents étaient sans doute frères et sœurs, cette néandertalienne de Croatie, elle, en tout cas, n'est pas le fruit d'un inceste.
Et l'analyse de ce nouveau génome complet donc de Néandertal nous montre surtout, Zoé, que l'homme ou la femme de Néandertal, en l'occurrence, est sans doute plus proche de nous qu'on ne le pensait.
Oui, on le sait, Néandertal s'est mélangé aux Homo sapiens et ses croisements ont probablement laissé des traces dans notre patrimoine génétique, du moins chez les humains hors d'Afrique, ceux dont les ancêtres n'ont jamais quitté ce continent, non pas de gènes néandertaliens. Mais alors, où et quand ces croisements ont eu lieu? Quelle part de notre patrimoine devons-nous au Néandertal? Là encore, cette étude, ces deux études apportent des éléments de réponse assez intéressants.
On voulait savoir à quel point cette femme néandertale retrouvée en Croatie est proche des néandertales qui se sont mélangés aux populations non africaines. Alors nous avons pris le génome du néandertal de Sibérie et le génome de cette femme néandertale retrouvée en Croatie. Et on a regardé lequel des deux était le plus proche des populations non africaines modernes. On les a comparés au génome d'individus nés en France, mais aussi en Russie, en Asie, aux États-Unis, en Australie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait à ce que dans l'Est, ce soit le Néandertal de Sibérie qui est le génome le plus proche, et que dans l'Ouest, en Europe, ce soit plutôt le génome de l'individu trouvé en Croatie. Cela aurait indiqué qu'il y a eu plusieurs mélanges à plusieurs endroits du monde. Mais en fait, pas du tout. On s'est rendu compte que c'est toujours le génome du Néandertal de Croatie qui est le plus proche des génomes de toute la population moderne, et que cette contribution génétique varie entre 1,8 et 2,6%. Le génome de cet individu nous indique donc que Néandertal est plus proche de nous qu'on ne le pensait.
En bref, maintenant, hier, on a senti passer le vent du boulet, Zoé.
Le vent du boulet, c'est vous qui l'appelez comme ça, l'astéroïde 2012 TC4. Il est passé à 44 000 km de la Terre. Il l'a frôlé, entre guillemets, donc. Alors, ce qui est assez courant, mais la NASA et l'Agence spatiale européenne ont profité de cet événement pour s'entraîner, mieux se préparer au passage de ce type d'objet rocheux qui s'approche parfois très très près de la Terre, comme celui notamment qui avait déchiré le ciel de la Sibérie en 2013, qui avait fait plusieurs centaines de blessés. L'exercice a été plutôt une réussite, même si plusieurs télescopes ont rencontré quelques problèmes techniques.
Deuxième sujet de la semaine, une équipe de recherche de l'INSERM a identifié un mécanisme moléculaire commun à la schizophrénie et aux troubles bipolaires.
Et oui, ces chercheurs de l'INSERM et du CEA Neurospin ont publié cette avancée assez importante dans la compréhension de ces deux maladies dans le Journal of Neuroscience la semaine dernière. Alors en 2010, la même équipe avait déjà mis le doigt sur la variante d'un gène baptisé SNAP25, beaucoup plus fréquente chez les patients qui souffrent de troubles bipolaires que chez les sujets dits normaux. Alors le but de cette équipe interdisciplinaire était donc de comprendre avec cette étude parue la semaine dernière, comment cette variante du gène SNAP25 pouvait concrètement influer sur le cerveau et augmenter le risque de troubles bipolaires. Comme l'a expliqué le psychiatre Jocelyn Wanou, il est l'auteur principal de cette étude.
Il est important de comprendre, c'est que l'objectif, c'est pas juste d'identifier ces variations génétiques, parce que c'est des variations génétiques qui augmentent le risque de tomber malade de 2, 3, 4, 5% au maximum. Oui. Donc c'est pas ça qui nous importait, mais c'était vraiment de comprendre le mécanisme par lequel cette variation génétique pouvait augmenter le risque de devenir malade. Donc dans nos expériences in vitro, on a pu montrer qu'avoir la version à risque du gène SNAP25, ça suffisait juste cette variation pour augmenter le niveau de transcription de ce gène. En imagerie génétique, donc en utilisant l'IRM pour comparer les sujets suivant la version du gène qu'ils portaient, on a pu montrer qu'en fait les sujets qui avaient la version à risque du gène avaient une amygdale plus grande et une altération dans ce qu'on appelle la connectivité entre l'amygdale du cerveau et le cortex préfrontal. Donc en fait, on s'est intéressé à cette synchronisation, car on sait qu'elle est associée au risque d'avoir des symptômes, des variations de l'humeur importantes et le trouble bipolaire. Et enfin, on a retrouvé que cette variation génétique était associée à un plus grand risque d'être schizophrène dans deux cohortes indépendantes de sujets.
Alors voilà, le but maintenant est de comprendre si d'autres gènes qui entraînent d'autres mécanismes moléculaires peuvent conduire, combinés à celui-ci, donc à celui qui vient d'être identifié, les patients qui seraient porteurs de plusieurs de ces variantes à risque à développer ces deux maladies.
Voilà, et puis je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée à la schizophrénie il y a quelques jours. On vous met évidemment, comme chaque jour, le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En bref, maintenant, l'INSERM a réussi à imager pour la première fois de manière non-invasive, par échographie, l'activité cérébrale d'un nouveau-né, Zoé.
C'est une première clinique et médicale assez importante, et grâce à cette technique baptisée de neuro-imagerie fonctionnelle par ultrasons qui a été développée en 2009 et qui combine une cadence ultra-rapide avec une très bonne résolution spatiale et une grande profondeur d'imagerie, on a de nouvelles perspectives de diagnostic neurologique, notamment chez les bébés, ceux qui sont nés à terme, mais aussi bien sûr chez les prématurés.
Et le Conseil économique et social préconise la nomination d'un scientifique au plus près du président de la République.
Sur le modèle du Chief Scientist qui est en place au Royaume-Uni depuis 1964, ce responsable viendrait éclairer le gouvernement et aiderait à constituer un réseau de conseillers scientifiques placés auprès des principaux ministres dans tous les champs, évidemment, pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est notre principal ennemi. C'est en tout cas ce que souhaite le CESE qui n'a pas, je le rappelle, d'avis obligatoire.
Contrairement aux chats qui sont, eux, nos principaux amis, bien entendu. Et pour finir par la rubrique de science improbable de la semaine, je ne sais pas si vous connaissez le durian, ce fruit que l'on trouve en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie, qui sent extrêmement mauvais. On vous dit souvent que ça sent mauvais, mais que c'est extrêmement bon. N'écoutez jamais ce qu'on vous dit, c'est effectivement très mauvais. Mais on sait en tout cas pourquoi ça sent aussi mauvais, Zoé.
Alors on saura peut-être bientôt. Hein. En tout cas, c'est comme ça que l'ont vendu les chercheurs qui travaillent dessus. Donc ce durian qui a cette enveloppe verte très rigide, qui protège donc le monde extérieur contre cette odeur qui vient de la pulpe blanche du fruit, difficilement soutenable, comparée soit à celle d'un fromage trop vieux, souvent évidemment à l'odeur d'une poubelle qui se décompose un jour d'été. Les Asiatiques et moi-même adorons ce fruit, dont on connaît 30 variétés aujourd'hui, mais dont plusieurs tendent et on ignore pourquoi à disparaître. Donc des scientifiques de Singapour, Hong Kong, Malaisie ont annoncé qu'ils ont commencé à séquencer le génome entier du durian. Ils travaillent à la fois sur les spécificités qui peuvent le rendre vulnérable et peut-être, qui sait, sauront-ils identifier les raisons qui le rendent si pestilentiel.